Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
C'est tellement bien de pouvoir louer avec les enfants. En tant que papa, je peux vous le dire, ça fait toute la différence de louer avec ses enfants. Et puis, pendant toute cette période de Covid, avec les restrictions, c'était un peu compliqué entre le nombre de limités qu'on était, on pouvait pas le faire, mais c'est bon de pouvoir revenir à ça. Vous allez bien ce matin ? Ok, il y en a qui doivent encore prendre du café. Hein. Il y en a, c'est encore vraiment tôt le matin pour vous. Ça marche. On va se plonger tout de suite dans un passage de la Bible. Et puis, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec l'Église, peut-être il y a plein de choses qui sont surprenantes. On vient de chanter quelque chose de vraiment bizarre, prendre vie dans une rivière. Tu veux dire, de quoi est-ce qu'on parle ? Il y a de l'eau qui jaillit en moi, de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment très présents dans le récit biblique et puis qui donnent du sens à tout ce qu'on dit là. C'est pas quelque chose de on se réjouit de l'été, du printemps, de pouvoir aller se baigner. C'est réellement qu'il y a des choses. Et puis une des choses, c'est que une des images qu'on a de la présence de Dieu, c'est en fait l'image d'une rivière. L'image est, et il y a vraiment depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a cette image là. Et donc ce premier chant faisait référence à ça. Et maintenant, on va lire un texte biblique et de nouveau. Dans ce texte biblique, peut-être que vous allez vous dire, je ne suis pas sûr de comprendre de quoi on parle ici ou quoi, mais restez avec moi, je vais tout faire pour rendre ça clair dans les minutes qui vont suivre. On lit ensemble quelques versets dans un livre qui s'appelle Ézéchiel. C'est un prophète, Ézéchiel, c'est-à-dire qui reçoit de l'information de la part de Dieu puis qu'il le déverse. On est dans l'Ancien Testament, au chapitre 36, et on va lire les versets 24 à 28. Ézéchiel 36, les versets 24 à 28. Je vous laisse un peu de temps pour y aller, pour ceux qui sont dans les Bibles papier, pour ceux qui sont dans les Bibles digitales, ça devrait être aussi assez rapide, parce que même si tu ne sais pas où est Ézéchiel, tu n'as qu'à le taper. Ézéchiel 36, 24 à 28 nous dit la chose suivante. « Je vous retirerai du milieu des autres peuples et des pays où vous habitez. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Pour ceux qui sont vraiment sensibles à tout ce qui a été dit, ce qu'on fait, ce qu'on vit, vous avez vu au milieu de ces quelques versets cette idée d'un cœur nouveau. Et ça va être la série qu'on commence aujourd'hui, puis c'est ma responsabilité de l'introduire. Alors je vais commencer avec une question. Est-ce que comme moi, plusieurs ici, vous avez déjà fait des choses à contre-cœur ? Levez la main si vous avez déjà fait quelque chose à contre-cœur, comme moi. Je pensais à quelques exemples comme ça pour vous, de moments où j'ai fait des choses à contre-cœur. Pour ceux qui ont grandi avec des parents puis une fratrie, je suis sûr, c'est presque obligé, vous avez fait des choses à contre-cœur. Le fameux moment où vos parents vous disent « va ranger ta chambre ». Je ne suis pas sûr que ton cœur débordait de joie, tu disais « mais c'est vraiment, il n'y a rien d'autre que j'aimerais faire maintenant à part ranger ma chambre, tu sais ». Moi, dans la fratrie, c'était le moment où mon père disait, ou ma mère aussi, « aide ton frère ». Je me disais, mais pourquoi mon frère est incapable ? Pourquoi c'est à moi de l'aider ? Pourquoi parmi nous six, on était six à la maison, ça tombe sur moi ? Et je suis sûr, s'il y en a d'autres, vous êtes comme moi, vous aviez l'impression qu'il n'y a que à vous qu'on demandait de l'aide. Le fameux vide le lave-vaisselle. Dans les tâches de la famille, j'ai l'impression que je suis le seul qui vide le lave-vaisselle. On a déjà fait des choses à contre-cœur. Je ne sais pas, peut-être dans la famille, vous avez quelques exemples. On a aussi fait des choses à contre-cœur, des fois au travail. Au travail, on peut se retrouver à devoir faire certaines tâches qui sont nécessaires, mais pas forcément plaisantes. Puis tu en arrives presque à les faire de façon robotique, tu n'y mets pas du tout ton cœur, tu n'avais pas du tout le cœur à l'ouvrage, comme dit l'expression. Puis si on est tout à fait honnête, c'est possible qu'on fasse des fois des choses à contre-cœur dans notre marche de foi aussi. C'est possible dans notre marche de foi qu'on se retrouve rendu à faire des choses. Ouais, ben il paraît qu'il faut aimer mon voisin, donc bon. C'est pas vraiment comme si j'avais vraiment envie de l'aimer, mais... Alors à l'église, c'est facile, tu peux changer de place, tu sais. Surtout maintenant que le Covid est fini, là, tu peux aller d'ailleurs. Mais si on est honnête, des fois, on fait les choses à contre-cœur. Puis je me réjouis de me plonger avec vous dans cette nouvelle série qui s'appelle justement Cœur Nouveau. Et le but, il y a plein de buts, c'est vraiment à plusieurs niveaux, mais si tu devais retenir une chose, mon envie dans cette série, c'est qu'on fasse un check de nos cœurs à nous. Où en est mon cœur ? Où en est mon cœur dans ce que Dieu veut pour moi ? Où en est mon cœur dans ce que Dieu veut de moi ? On va regarder à nos cœurs, on va regarder à nos motivations, parce que Dieu, on a beaucoup plus après nos cœurs qu'après nos actions. Dieu, il est vraiment intéressé par nos cœurs. Alors tu peux garder ça dans un coin de ta tête alors qu'on commence cette série. Ton cœur est important. Puis je te le dis aussi parce qu'on vit dans une société où beaucoup de choses sont faites pour que tu ne penses pas trop à ton cœur. On peut très vite tomber juste dans le rush de la vie, dans le rush du quotidien, dans les choses à faire, dans tout ça, puis on n'a pas forcément d'espace pour penser à ton cœur. Alors on va réfléchir à ça, puis en introduction j'ai envie de te demander comment va ton cœur. Pour ceux qui prennent des notes, tu peux écrire ça. Comment va mon cœur ? Comment est-ce que je nourris mon cœur ? De quoi est-ce que je nourris mon cœur ? Si tu veux aller un cran plus loin, tu peux aussi te poser la question : comment est-ce que je vis au quotidien reflète ce qui se passe dans mon cœur ? C'est aussi une façon de parler de l'intégrité. Et honnêtement, au-delà des quelques exemples que j'ai évoqués d'aller à contre-cœur, je crois que c'est vraiment, vraiment important dans nos jours de checker nos cœurs. Alors bienvenue, merci d'être là, et j'espère vraiment que vous vous réjouissez avec moi. Moi, je suis vraiment excité par cette série. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yves, puis je suis aussi le pasteur dans cette église, donc vous risquez de me revoir si vous revenez. Moi, je me réjouis de vous rencontrer en tout cas. Ce message d'aujourd'hui va servir un peu d'introduction. Alors pour ceux qui sont là qu'aujourd'hui, puis qui savent qu'ils ne pourront pas être là, j'ai une bonne nouvelle, nos messages sont disponibles en ligne. Mais j'ai aussi envie de te dire, ce message va se suffire à lui-même, c'est tout bon. Mais il faut que tu comprennes que je vais devoir poser le cadre. Et ça veut dire que ça va être un petit peu, je vais prendre un petit peu plus la casquette de l'enseignant. Je vais te donner pas mal d'informations. Puis je veux t'encourager à prendre parce que c'est des informations qui vont nous aider tout au long de cette série en fait. C'est des informations qui vont nous aider, on va aller un peu dans la Bible. Il y a quelques geeks de la Bible ici, il y a quelques théologiens, des gens qui aiment creuser la Bible. Il y en a quelques-uns ? Trois. Ok. Ben, désolé pour tous les autres, on est obligé de passer par là, pour comprendre ce qui va se passer. Et en fait, dans cette série, on va avoir comme trame de fond deux livres de la Bible. Il s'agit de Esdras et Néhémie. Esdras et Néhémie. Quand je dis ça, peut-être certains vous avez entendu, peut-être d'autres vous dites « qui sont ces gens ?» C'est littéralement des prénoms, d'accord ? Néhémie est un peu plus connu que Esdras, puis ces livres se trouvent aussi dans l'Ancien Testament, comme Ézéchiel qu'on a lu avant. Mais en fait, ces livres sont appelés des livres historiques. Dans la Bible, on nous dit que c'est des livres historiques, ça veut dire qu'ils nous racontent une partie de l'histoire du peuple israélite. Et chronologiquement parlant, si vous regardez les dates des histoires, en fait, ces livres-là nous racontent les derniers événements de l'Ancien Testament. D'accord, ces histoires-là, ces deux livres, ils nous racontent vraiment la fin, juste avant l'arrivée de Jésus. C'est un moment clé, c'est un moment crucial. Puis dans la plupart de vos Bibles, vous n'allez pas les trouver à la fin de l'Ancien Testament parce que les Bibles, elles ont été construites, composées, réarrangées un peu plus tard. Donc vous allez les trouver dans la partie des livres historiques. Puis après ça, vous allez avoir ce qu'on appelle les livres poétiques avec les psaumes. Ou les livres de sagesse aussi, avec les psaumes, proverbes, Job, tous ces livres-là. Puis ensuite, vous avez toute une série de livres qui s'appellent les prophètes. Dans votre Bible, c'est les prophètes qui finissent l'Ancien Testament. Mais comme je vous ai expliqué, il y a d'autres livres, et ces livres-là sont historiques, et c'est les derniers récits. C'est vraiment important, puis c'est important d'entendre ça. Parce qu'en fait, ces livres-là historiques nous racontent ce que le peuple a vécu, puis les livres prophétiques, qui situent pour certains plus ou moins dans la même période, nous racontent le cœur de Dieu, l'intention de Dieu pour son peuple. Puis si on ne comprend pas ça, si on lit un petit peu comme simplement le récit chronologique, on risque de penser qu'il y a une dissonance, alors que pas du tout, les choses sont comme à lire en parallèle à deux niveaux différents. Ça va ? Pas trop geek encore ? Vous êtes avec moi ? C'est bon ? Esdras, Néhémie. En plus de ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez vous demander pourquoi deux livres ? Mais en fait, dans la Bible hébraïque, ces deux livres étaient un seul livre. La séparation Esdras-Néhémie, c'est plus récent en fait. Au départ, c'était un seul livre qui se lisait ensemble. D'ailleurs, si vous lisez, vous arrivez à la fin d'Esdras, vous dites c'est bizarre, il n'y a pas vraiment de conclusion. Tu sais. Mais parce que, en fait, ce n'était pas la fin d'un livre. Le récit continue. Et littéralement, il faut vraiment les lire ensemble pour comprendre ce qui se passe. Alors, ces livres, ils couvrent environ 100 ans, 100 années, un siècle quasiment d'histoire. C'est long, hein. Il y a des ellipses, on ne nous raconte pas tout des 100 ans, mais c'est une longue histoire. Et on y voit, en fait, principalement trois grands récits. C'est assez intéressant, il y a comme trois héros, si vous voulez, et puis trois récits. Puis ces récits, ils suivent une logique qui est assez similaire, en fait. On voit, justement, le peuple qui est en exil, puis c'est la fin de l'exil. On voit littéralement à chaque fois, ces récits, c'est les mêmes. On voit un roi qui interagit avec un gars en particulier, puis qui lui dit « tu peux rentrer dans ton pays, va rentrer dans ton pays », puis il y a ce retour de l'exil. Et puis alors qu'ils rentrent de l'exil, ils remettent en place petit à petit la réalité à Jérusalem. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on va voir. Puis en général, quand vous commencez ça, puis je vous dis « on sort de l'exil », dans votre cœur, il devrait y avoir de la joie. C'est plutôt une bonne nouvelle. On sort de l'exil, ça veut dire que c'est fini un temps d'oppression, un temps où on n'était pas à la maison, on peut enfin retourner à la maison, yes, on est dans la joie. Donc quand tu lis, c'est vraiment l'intention des auteurs, c'est que tu commences avec comme une excitation, yes, il y a des bonnes choses qui arrivent. Puis quand tu continues le récit, à chaque fois tu te retrouves à un moment un peu surprenant. Tu te retrouves, il y a de l'opposition, ça ne se passe pas comme ça aurait dû se passer, pas sûr de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, chacun de ces trois récits dans le grand livre, dans ces 100 années, se termine un peu de la même façon où ça te laisse un goût aigre-doux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par un goût aigre-doux. Vous avez déjà vu peut-être des récits, des films, peut-être vous avez lu des livres, où tu sais, quand tu arrives à la fin, tu te dis, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que c'est bien. Vous avez déjà vécu ça, vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, ce moment où tu arrives à la fin d'une histoire, tu te dis... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Et c'est littéralement ce qui se passe ici. Vous avez les trois récits de trois leaders, mais à la fin de chaque fois, ces leaders vous disent « c'est pas mal, mais est-ce que vraiment c'est bien ?» Si tu prends le temps de le lire, tu te demandes un peu. Et quand tu arrives à la fin de Néhémie, rappelle-toi, c'est la fin de l'Ancien Testament, tu te demandes vraiment « est-ce que c'est bien ?» Est-ce que c'est bien? C'est bizarre, le dernier chapitre de Néhémie est vraiment surprenant. Donc il y a trois leaders, je te dis les noms de ces leaders, si jamais tu penses à donner des noms à tes enfants, on a des gens qui sont enceintes, je le dis au cas où. Le premier c'est Zorobabel, ça donne des idées n'est-ce pas? Le deuxième c'est Esdras et le troisième c'est Néhémie, c'est ces trois leaders qu'on suit. Et puis en gros, Zorobabel il va amener un premier groupe d'exilés au retour à Jérusalem, puis il va remettre en place le temple. Puis ensuite, on a Esdras, puis Esdras, il va rappeler les règles, la Torah, les commandements de Dieu. Et en fait, c'est vraiment, il reconstruit la vie de communauté. Et puis ensuite, Néhémie arrive, puis il reconstruit les murailles de Jérusalem. D'accord ? Ça, c'est les trois leaders, puis c'est les trois histoires qu'on a. Puis comme dit, chacun de ces retours, au départ, c'est vraiment une bonne nouvelle. Au départ, tu devrais te dire, yes, c'est bon, il y a des bonnes choses qui se passent, le peuple peut rentrer, c'est bon. Mais à la fin, à chaque fois, c'est ce sentiment un petit peu, est-ce que vraiment c'est bon ? Et ce dernier chapitre, on aura tout un message sur ce chapitre. Tu dis, on est à la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, tout semble bien, mais ce dernier chapitre me donne un goût bizarre dans la bouche. On n'a pas le happy ending tant attendu. Moi, je vous dis tout ça aussi pour que vous alliez lire pendant cette série ces livres dans vos Bibles. J'aimerais vraiment vous encourager à prendre le temps de lire Esdras, Néhémie. On parle d'une petite vingtaine de chapitres, ce n'est pas trop, trop long à lire. Allez les lire pour que ça accompagne, vous verrez, c'est assez surprenant à lire. Dans un tout petit moment, on va se pencher sur un texte d'Esdras, justement. Mais j'aimerais encore juste repréciser pour que vous compreniez la construction de mon message. Au début, j'ai lu Ézéchiel. Puis Ézéchiel, je vous l'ai dit déjà, c'est un prophète. Puis en fait, Ézéchiel, il prophétise, c'est-à-dire qu'il parle de la part de Dieu juste avant que le peuple rentre de l'exil. Vous comprenez? Il se situe juste avant que le peuple rentre en exil. Et il faut, j'aimerais que vous compreniez un petit peu l'histoire. Alors imaginez que vous êtes loin de chez vous, que vous êtes empêché d'être chez vous pendant longtemps, qu'on vous a enlevé toutes vos habitudes, toutes vos valeurs, toute votre manière de faire. Vous ne savez pas combien de temps, qu'est-ce qui se passe. Puis vous savez, parce que des gens vous disent depuis longtemps, Dieu a un projet pour toi, tu vas rentrer à la maison, tu te réjouis. Puis juste avant que tu partes, un des derniers prophètes te dit, vous allez rentrer. C'est ça qu'on a lu au départ. Vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer à la maison. Puis je vais changer vos cœurs, je vais vous donner un cœur nouveau. Et normalement, tu devrais être dans l'excitation de ce rentrée, de cette rentrée-là. Puis c'est vraiment ce qu'on a lu. Il faut lire ces deux choses en parallèle, parce que si tu lis que les livres historiques, tu risques de ne pas passer à côté de la dissonance que j'ai envie de te montrer. Si tu comprends pas le cœur de Dieu qui est révélé dans les livres prophétiques, tu lis ça puis tu dis « Ah ben c'est bien, Zorobabel il fait son taf, c'est bon, Esdras, fidèle à lui-même, c'est bon, Néhémie, les murailles, c'est bon », puis tu risques de ne pas voir le côté aigre-doux que je suis en train de te dire. Parce que pour comprendre ce côté aigre-doux, il faut que tu lises « C'était quoi l'intention de Dieu ?» Parce qu'en fait, derrière ces histoires qui ne sont pas des mauvaises histoires, il y a comme un petit couac à chaque fois. Et ce couac, il est mis en évidence par les tensions que ces leaders vont vivre. On va le voir ce matin, mais il faut que vous compreniez ça, c'est vraiment important. Je vais m'arrêter ici, désolé pour toute cette période un petit peu enseignement et tout ça. Je vais essayer juste de le redire différemment. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai vu qu'il n'y avait que 3 mains qui se sont levées, alors je suppose que plusieurs vous êtes partis ailleurs. Revenez avec moi maintenant. Voilà ce que vous devez retenir. Ce qu'on lit dans ces livres, c'est une période de transition majeure. On est dans une période de transition. On est dans une période aussi qu'on pourrait appeler de réveil, un retour au projet de Dieu. Et alors qu'on est là-dedans, alors que le peuple était en exil, va revenir et reconstruire, il y a un espoir pour du renouveau, il y a une sortie d'exil. C'est une bonne nouvelle. Et on a des bons leaders. Mais pourtant, la fin n'est pas aussi belle et réjouissante qu'espérée. Et je reprends ici les mots de Tim Mackie, qui est théologien, qui dit « Ces récits semblent pointer le doigt vers le besoin de cœur nouveau. » Ces récits sont vraiment intéressants, mais dans leur construction, ils semblent nous montrer qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. L'Ancien Testament se termine au niveau des récits en nous disant « Il y a encore quelque chose qui ne va pas. » Puis le problème, c'est un problème de cœur. Puis je trouve intéressant en soi, moi j'aime bien aller me plonger là-dedans, mais je trouve aussi intéressant parce que j'ai l'impression... Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on est aussi dans une période de transition en société. J'ai l'impression qu'on vit une période de transition. J'ai l'impression qu'avec cette sortie d'une période de pandémie marquée par des restrictions, marquée par des empêchements, on est dans une transition. Je crois qu'on veut un renouveau. Moi, j'entends ça dans le monde, j'entends ça dans l'Église. Les gens veulent un renouveau, veulent un réveil. Ils ont envie que quelque chose se passe. J'ai souvent entendu en ce début d'année 2022, cette fois-ci, ça y est, tu sais. On nous a volé 2 ans, mais cette fois-ci, ça y est, 2022, c'est l'année où les choses changent. Puis j'ai envie de dire, ce n'est pas une mauvaise chose, je n'ai pas de problème avec ça. Dans les églises, on espère aussi reconstruire les relations, reconstruire la vie de disciples qui, pour certains, a été comme mise en stand-by. On a envie de ça, puis encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous, ici à Home, on a envie de construire, de poursuivre dans le mandat que Dieu a pour nous. C'est une très bonne chose, c'est des bonnes intentions. Mais je crois du coup que cette série, elle est encore plus à propos que ce que j'ai expliqué avant. Je crois que cette série, elle est extrêmement importante. Elle va donner des clés pour nous collectivement, mais aussi pour nous individuellement. Et je crois aussi, avant qu'on se plonge dans le texte, qu'il faut qu'on comprenne à quel point nous sommes aussi en exil ici aujourd'hui. Je ne sais pas si Dieu sait que tu es un exilé. Les disciples de Christ sont des exilés, bienvenue. C'est une bonne nouvelle. Je te parle un tout petit peu de l'exil encore, juste que tu comprennes un petit peu l'importance de ce message puis que tu disposes ton cœur à ce que Dieu veut faire. L'exil, ça signifie littéralement l'obligation de séjourner hors d'un certain lieu. En général, ce terme, il se rapporte à une patrie, par extension un lieu qui nous est cher. Quand tu n'as pas la possibilité, quand tu es empêché de séjourner dans un lieu qui est important pour toi, dans un lieu qui t'est cher. Être en exil, c'est littéralement la situation d'une personne qui est expulsée. Puis dans la Bible, on voit ça notamment avec les Israélites qui sont déportés, emmenés à Babylone, qui ne peuvent plus vivre selon le fonctionnement que Dieu avait prévu pour eux, qui sont sous l'oppression de rois. Et on comprend ça pour eux, n'est-ce pas? Mais cette image, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'arrive après ça Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Puis Jésus-Christ, il dit « Le royaume des cieux s'est approché ». Le royaume des cieux est proche. Puis quand il dit ça, il invite aussi les gens à venir dans mon royaume. Mais il dit, mon royaume, ce n'est pas un royaume qui est visible ici sur terre. Et en fait, au travers de Jésus-Christ, on comprend qu'il y a une autre forme d'exil, qui est un peu plus, on va dire, conceptuelle, si vous voulez. Mais à quelque part, c'est les mots de Jésus lui-même qui dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans un contexte, mais vous n'êtes pas de ce contexte-là. Vous êtes en train de vivre dans un contexte qui n'est pas tout à fait ce que moi j'avais prévu pour vous au départ. Et il y a une forme d'exil pour nous aussi. L'exil, c'est un endroit où une autre culture qui fonctionne différemment de chez nous. Puis il faut qu'on ait conscience d'être dans l'exil. Alors je ne sais pas si vous avez conscience d'être en exil ou pas, mais je vais faire un petit exercice avec vous. Je vais vous demander d'imaginer avec moi pendant un instant une scène. Pas trop difficile, je crois, parce que vous êtes tous ici présents. Je crois que vous allez pouvoir imaginer cette scène. Imaginez, à un moment donné, vous vous baladez le dimanche matin. Vous êtes en route pour l'église. Encore pas trop difficile. Et puis, on est au printemps, il fait beau, il y a le soleil qui est là. Puis, vous croisez du monde. Et puis, pour une raison surprenante, les gens vous demandent « Oh, qu'est-ce qui vous amène par ici aujourd'hui ?» Et là, je sais... parce que je suis avec vous, je suis de Lausanne, je sais exactement. Ce serait vraiment facile de lui dire, je vais à un brunch. Je vais à un brunch au Pointu, j'ai eu ma place. Et là, le gars dit, ah, ça fait longtemps que j'aimerais aller, comment c'est là-bas le point. Tu commences la conversation, tu sais. Facile. Personne ne te posera des questions si tu dis, je vais à un brunch le dimanche matin. Si tu lui disais, je vais me balader, je profite du soleil, il fait beau, je vais à l'Ermitage, beau parc, je vais juste prendre du temps un petit peu, m'asseoir, lire un livre. Les gens diront, ah, trop bien, l'Ermitage, c'est un bon spot. Puis peut-être il va te proposer, mais est-ce que tu connais ce spot ou ce spot? Facile, n'est-ce pas? Si tu lui disais, j'ai mon yoga mat et puis je vais faire ma séance de yoga à la jetée de la compagnie, tu n'aurais pas de problème de lui dire ça. La personne dira, waouh, un corps sain dans un esprit sain, parfait, magnifique. Vous prenez soin de vous, vous êtes spirituel, monsieur, très bien. Mais on s'entend, puis on est d'accord de dire, c'est difficile de dire à cette personne, je vais à l'église proclamer ma foi et mon assurance dans mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile de lui dire ça, n'est-ce pas? Toutes les autres réponses, c'est facile. Hein, mais cette réponse-là, tu dis, comment je vais expliquer? Déjà, le mot église, c'est chaud. Le mot assurance, c'est chaud. Le mot foi, c'est chaud. Le mot Jésus, c'est chaud. Bienvenue en exil. Bienvenue en exil. Ce petit exercice te montre que même si tu ne le réalises pas, tu vis dans une situation d'exil. Tu vis dans une situation où les choses qui sont profondes à toi, les choses qui marquent ton cœur, ton désir, ce n'est pas facile dans le contexte dans lequel on est. On vit dans un monde qui est toujours plus hostile à la vision du monde chrétienne, et dans ce monde, nos valeurs, nos fonctionnements sont parfois simplement difficiles à assumer, sont très souvent difficiles à partager. Puis ça, c'est la réalité de l'exil. Cet exil, il est soutenu, puis il est renforcé encore plus par les médias, par les penseurs, par le monde du divertissement. Et plusieurs parlent de la révolution de 2007. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait une révolution en 2007. 2007, c'est la sortie du premier iPhone. Et il y en a plusieurs qui disent, c'est des sociologues, c'est des historiens, pas seulement des chrétiens, qui disent dans quelques temps, on va réaliser que ce qui se passe là, c'est encore plus fort que ce qui s'est passé au moment où il y a l'impression qui est arrivée. Les changements qui sont arrivés quand on a donné un smartphone entre les mains des gens, puis les différentes applications, les milliers d'applications, millions d'applications qui existent aujourd'hui, ça a créé une révolution où chacun devient possible de créer du contenu, possible d'amener, de consommer de l'information. Ça change complètement comment on vit. C'est la révolution de 2007. On ne le sait pas encore parce qu'on est encore juste au début de cette révolution-là. Je vais te donner juste un chiffre pour te montrer à quel point cette réalité d'exil est renforcée par la technologie. En 2010, les chiffres ils datent, hein, 2010, on estimait qu'un jeune entre 15 et 23 ans passait 2757 heures par année devant les écrans. Je fais le calcul pour toi, ça correspond à peu près à 115 jours en une année. D'accord? Dans cette même période, les mêmes jeunes interrogés, on leur a demandé combien de temps ils consacraient à leur spiritualité. Et la réponse, c'était entre 150 et 300 heures par année, ce qui correspond à 9 jours. Donc en 2010, et c'est important d'insister sur 2010, parce que la révolution technologique, une des choses qu'elle a, c'est qu'elle est exponentielle dans sa vitesse. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas juste on a continué la tendance, c'est que c'est encore plus que ce que c'était avant. Donc en 2010, en gros, un jeune, entre 15 et 25 ans, grosso modo, allait passer 115 jours devant les écrans, mais moins de 10 jours à l'église. Je te le résume, hein, je te le caricature un petit peu pour que tu comprennes. Donc l'exil que je te parle, il est renforcé aussi parce que plusieurs ont appelé la Babylone digitale. Aujourd'hui, non seulement on est au cœur d'une forme de Babylone, mais cette Babylone est renforcée par le digital. Alors si je repense à ce que j'ai dit plus tôt, on est dans une période de transition, on doit se positionner, puis c'est encore plus vrai quand on réalise à quel point on est en exil. Je crois qu'on doit impérativement comprendre ça. Et au travers des livres d'Esdras et de Néhémie, on veut justement voir comment se positionner, comment veiller et comment ne pas nous laisser être enfermés par cette Babylone digitale. Je ne sais pas si tu réalises à quel point ton cœur en a besoin. Je te l'ai dit, on est souvent déconnecté de nos cœurs ces temps. Parce qu'on est submergé par de l'information, on ne sait plus comment va notre cœur. Est-ce que tu réalises à quel point il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société? Et que si tu continues simplement à fonctionner comme la société fonctionne, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Aujourd'hui, l'anxiété augmente, les tensions augmentent, l'insatisfaction augmente, et on est toujours plus à la recherche d'un bonheur, on est toujours plus à la recherche d'un quick fix. Avant, il y avait des quick fix. Quick fix, c'est comme un shot de dopamine. Avant, une tendance, ça allait durer quelques semaines. Aujourd'hui, une tendance, elle dure quelques heures. Et on est toujours à la recherche du prochain shot. Et moi, je vais le dire de façon vraiment dans l'église, je remets maintenant, j'ai mis ma casquette d'enseignant, j'ai mis ma casquette de sociologue, je remets ma casquette de pasteur. Il y a besoin d'un réveil, les amis. Il y a besoin d'un réveil. Il y a besoin qu'on se positionne en tant que chrétien, qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, et il y a besoin qu'on se positionne pour ce réveil. J'irai même plus loin, il n'y a pas besoin d'un réveil, il y a besoin d'une réforme. C'est-à-dire qu'il y a besoin de laisser ce réveil durer suffisamment longtemps, et il y a besoin qu'on construise sur ce réveil pour que ce réveil devienne une nouvelle réalité, ce qu'on appelle une réforme. Alors on va être concret dans cette série, mais là je voulais juste poser le cadre, que tu comprennes un peu sur quoi ça s'appuie cette série, bibliquement, mais sur quoi ça s'appuie aussi dans ce qu'on est en train de vivre, et je crois que c'est un problème de société, mais ce problème de société c'est un problème de cœur nouveau. Et on va regarder ça maintenant, on va enfin, dans Esdras, promis, mon message n'est pas long, vu que j'ai dû donner toute cette introduction. Il y en a qui se la flippent, qu'est-ce qu'on va faire? Annule les plans pour après. On va lire maintenant Esdras, on va aller dedans, et puis ça va faire du sens. Je ne vais vraiment pas être lent, il y a une seule clé, mais cette clé elle est extrêmement importante, les amis. Alors je veux prier avant de lire Esdras avec vous, puis maintenant que vous avez compris un petit peu le contexte, c'était nécessaire que je le pose, j'aimerais vraiment que vous puissiez disposer vos cœurs, où que vous en soyez. Je sais ici, il y en a certains, vous ne suivez pas Jésus, puis c'est tout à fait ok. Merci d'être là, en fait. Merci de nous donner le temps de vous parler, d'être avec vous, de vous rencontrer. Merci. Et votre cœur aussi, on prie qu'il puisse être touché, que ça puisse faire du sens, ce que vous entendez maintenant. Il y en a certains, vous suivez Jésus depuis quelques temps. Il y en a d'autres, vous allez vous faire baptiser prochainement. Puis, yes, come on. Et il y en a d'autres encore, ça fait des années que vous suivez Jésus. Mais nous tous, où qu'on en soit, on doit dire au Seigneur, voilà mon cœur. Parle-moi. Alors Seigneur, alors qu'on va se plonger dans ce texte d'Esdras, alors qu'on va commencer un peu plus formellement cette série, je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous parler. Je te prie que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. On l'a lu dans le prophète Ézéchiel, tu veux nous donner des cœurs nouveaux. Tu veux nous donner des cœurs de chair plutôt que des cœurs de pierre. Alors Seigneur, on te donne nos cœurs ce matin et on se rend disponible à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On va lire Esdras, les chapitres 3, du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, et on va même commencer les versets du chapitre 4. On va lire jusqu'au verset 3 du chapitre 4. Pour information encore, une fois, si tu ne connais pas la Bible, les chapitres et puis les versets, ça a été rajouté après coup. Donc en fait, on va juste lire une portion du texte qui était pensée au départ seul. Esdras 3, verset 10 jusqu'à chapitre 4, verset 3. Quand les constructeurs posent les fondations du temple du Seigneur, les prêtres en vêtements de fête avancent avec des trompettes. Les lévites de la famille d'Assaph avancent avec des cymbales. Tous chantent la louange du Seigneur, comme David, le roi d'Israël, l'a commandé. Ils rendent gloire au Seigneur et ils chantent sa louange en disant à tour de rôle, « Oui, le Seigneur est bon et son amour envers Israël est pour toujours. » Le peuple aussi chante la louange du Seigneur en criant de joie, parce que les constructeurs posent les fondations de son temple. Beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille très âgés qui ont vu le premier temple pleurent à haute voix pendant que les constructeurs posent sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. Mais beaucoup crient de joie. Tout le monde pousse des grands cris. On les entend de très loin. Ainsi, les gens ne peuvent pas faire la différence entre les cris de joie des uns et les cris de tristesse des autres. Les ennemis des Juifs et de Juda et de Benjamin apprennent ceci. Ceux qui sont revenus d'exil construisent un temple pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Alors ils viennent trouver Zorobabel et les chefs de famille et ils leur disent, Nous voulons vous aider à construire ce temple. En effet, nous adorons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis que le roi d'Assyrie, Assardon, nous a envoyés ici. Mais Zorobabel, Yeshua et les autres chefs de famille d'Israël leur répondent : ce n'est pas vous qui devez nous aider à construire un temple pour notre Dieu, c'est nous seuls qui devons le construire. En effet, ce sera le temple du Seigneur, Dieu d'Israël. C'est un ordre de Cyrus, le roi de Perse. Drôle de passage, hein ? Bizarre. Maintenant que vous avez compris le contexte, on est dans cette vague de rentrée et puis on est dans cette réalité où il y a le temple qui est reconstruit. Puis je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle. Il y a les cris de joie comme David l'a demandé. Puis en même temps, on nous dit, il y en a qui pleurent là au milieu. Puis on ne sait pas différencier la joie de la tristesse. Puis juste après ça, il y a les tensions qui commencent. Juste après ça, il y a des gens qui viennent. Hey, est-ce qu'on peut vous aider à construire ? Non, allez-vous-en, on ne fait pas ça avec vous. Bizarre. Je vous dis, c'est une histoire, si vous prenez le temps de lire cette histoire, il y a vraiment des sentiments. À un moment, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Le titre de mon message, c'est « Au-delà des apparences ». Au-delà des apparences. Quand vous commencez ce texte, vous êtes vraiment dans quelque chose de magnifique. Et si vous vous êtes familier avec l'Ancien Testament et le récit de l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous réjouir. L'idée d'un temple pour Dieu, c'est une idée fondamentale, une idée qui est centrale au récit du peuple. Vous dites, c'est terrible. Et dans le fait d'être partis en exil, ils ont perdu leur temple. Et là, littéralement, ce qu'on a lu là, je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte, parce que normalement, il devait y avoir des cris de joie, des chauffards, des trompettes, tout ça. Mais... si vous aviez compris ce qui se passe là, ils reposent les premières pierres. Ils ont reconstruit le temple. Je ne sais pas si tu comprends la bonne nouvelle que c'est. Et c'est facile d'imaginer à la place du peuple cette joie. Et en même temps, on nous dit, les vieux pleurent. Rien que sur ça, il faudrait s'arrêter. Rien que sur cette histoire-là, il faudrait s'arrêter longuement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ceux qui ont vu le premier temple sont dans les larmes ? Alors bien sûr, il y a plusieurs explications qui sont possibles à ça. Mais rien que là, on pourrait se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais. Ok, pense à ta famille. Et pense à une excellente nouvelle que tu pourrais leur annoncer. Je pense à quelques bonnes nouvelles que tu pourrais leur annoncer. J'ai réussi mon master. Plutôt une bonne nouvelle. Tu sais. Ça y est, on est fiancés. On va se marier telle date. Plutôt une bonne nouvelle aussi. Et papa, maman, grand-papa, grand-maman, on va être parents dans quelques mois. Une autre bonne nouvelle. Imagine ce genre de bonnes nouvelles. J'essaie de prendre des bonnes nouvelles à notre échelle. Hein. Et imagine à ce moment-là, ton père. Yeah! Woohoo! Il sort le champagne, on va fêter. Et imagine ton grand-père. Oh non. Il se met à pleurer. Tu comprends quand je te dis, il faut que tu comprennes que cette histoire, c'est bizarre cette histoire-là. Ça demande de poser des questions. Mais qu'est-ce que. Attends, pourquoi ? Grand-papa, grand-maman, pourquoi vous pleurez ? Puis on nous dit même tellement. C'était comme. Tellement il y avait de joie, puis des pleurs, on n'arrivait plus à savoir si c'était de la joie ou pas de la pleure. Tu sais, ou des pleurs. Tu vois, quand je dis des sentiments aigre-doux. Moi, je me mets à la place de celui qui a annoncé la nouvelle, puis il est là, il rentre à la maison et dit : chérie, écoute, j'ai annoncé donc qu'on allait avoir un enfant. Alors, la réaction de ta famille ? Bah, je ne sais pas trop. Bah. Les uns sont dans la joie, les autres sont dans le deuil, je ne comprends pas. Je ne sais pas te dire. Peut-être qu'ils savent ce qui nous attend, je ne sais pas. Mais si tu continues l'histoire, ce n'est pas juste ce sentiment aigre-doux. Juste après, se passe autre chose d'extrêmement surprenant. On nous dit les ennemis arrivent, puis les ennemis, eux, ils disent « Hey, on a envie de vous donner un coup de main. On sert le même Dieu que vous. » On a envie de pouvoir construire avec vous. Et puis là, tu as une réponse méga surprenante. Non, 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 c'est notre temple, on obéit au roi des Perses. Attends, quoi ? Il y a plein de choses bizarres là-dedans. C'est qui ces ennemis ? Je vais le formuler comme ça, très simplement pour toi. Tu connais la phrase ? Les amis de mes amis sont mes amis. Est-ce qu'ils servent vraiment le même Dieu que nous ? C'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils servent vraiment le même Dieu que nous ? Ils débarquent là, c'est qui ? Et ils disent, on le fait depuis qu'on nous a amenés ici. Donc ce n'est pas des ennemis qui sont venus, eux, c'est des ennemis qu'on a amenés ici. C'est qui ses ennemis? Puis il faut se poser cette question-là. Et juste après, dans la même réponse, le gars dit, en plus de ça, on ne veut pas faire ça avec vous, c'est pour notre Dieu, on obéit au roi des Perses. Mais le roi des Perses, ce n'est pas celui qui vous avait mis sous sa coupe? Vous obéissez à qui, en fait? Il y a plein de choses bizarres. Si on lit trop vite, il y a plein de choses, on risque de passer à côté. Quand on lit le mot ennemi, c'est littéralement en hébreu le mot ennemi, mais en fait, c'est un mot, c'est très très difficile de comprendre qui ils sont. Parce que la première des lectures, c'est vraiment, c'est des gens... Alors la première des lectures, si on n'étudie pas le texte, on pense que c'est des méchants. C'est pas tout à fait des méchants. Si on étudie un peu plus le texte, en fait, c'est d'autres personnes qui ont été déplacées, c'est à quelque part d'autres personnes qui sont aussi sous la coupe du roi de Perse. Donc eux, ils étaient en exil, et puis le roi avait de la puissance militaire sur eux, autorité sur eux, mais il avait aussi ça sur d'autres peuples. Et là, c'est d'autres peuples qui ont été transférés ici. Ils sont pas chez eux, mais ils sont ici. Mais il y a encore une autre lecture qui est possible. C'est que quand il y a eu l'exil, de la même façon que le retour en exil n'est pas en une fois, de la même façon, tout le monde n'est pas parti à Babylone. Et il y a plusieurs théologiens qui disent, en fait, ça, c'est juste leur descendance qui était restée sur place. C'est tout à fait possible que là-dedans, il y a des Israélites qui étaient restés sur place, qui n'étaient pas montés à Babylone, qui n'étaient pas sous l'emprise de Babylone, qui étaient restés sur place. On ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est une opposition et que cette opposition, elle va arriver sur la division. Ça, on le sait. Et cette division-là, on le sait aussi, ce n'est pas l'intention de Dieu. Et pour ça, il faut lire les prophètes. Si vous lisez comme ça, vous pouvez dire, Zorobabel, il sait bien ce qu'il fait. Il assure, il met le cadre et c'est bon. Mais si vous lisez les prophètes, l'intention de Dieu, ce n'a jamais été la division. Rappelez-vous à quel moment de l'histoire on se situe. C'est la fin de l'Ancien Testament. Les choses qui vont arriver littéralement après, c'est le Messie. La promesse, là je vais très très vite, hein, désolé pour ceux qui n'ont pas les références, mais la promesse qui a été faite à Abraham, c'était qu'il allait être une bénédiction pour les nations. Et on avance dans cette promesse, on arrive à un moment donné, puis là on a littéralement les gens qui disent « Nous, on ne veut rien avoir à faire avec vous, on n'a rien à faire à faire avec vous, on ne veut pas être avec vous, on obéit au roi de Perse. » C'est très bizarre ce qui se passe. C'est très surprenant ce qui se passe. Je vous l'ai dit avant, on peut des fois faire les choses à contre-cœur, puis des fois on peut faire les choses sans réaliser où est notre cœur. Des fois on fait les choses puis on a oublié de se poser la question où est notre cœur. Je vais le dire comme ça, on peut faire des bonnes choses avec un cœur au mauvais endroit. On peut faire des bonnes choses avec un cœur à un mauvais endroit. Puis si on fait des bonnes choses avec un cœur au mauvais endroit, les conséquences ne sont pas toujours bonnes. En fait, les conséquences sont rarement bonnes. Et alors qu'on est en exil, nous aussi, on doit se positionner, puis c'est avant tout une histoire de cœur. Dans nos frustrations face à ce qu'on peut vivre, dans nos transitions au sortir du Covid, dans nos projets futurs, mariage, pas mariage, tout ce qui se passe, comment est-ce que nos cœurs, je vais le dire ainsi, comment est-ce que nos cœurs battent au rythme du cœur de Dieu? Est-ce qu'on sait exactement ce que Dieu veut? Puis est-ce qu'on est en train d'aller avec ce que Dieu veut? Ou est-ce qu'on construit sur nos blessures, sur nos frustrations, sur nos échecs? J'arrive au bout. Je vous ai dit que ce n'était pas long. Puis j'ai demandé à l'équipe de louange de revenir. Puis je vais vous dire ce que j'ai vraiment envie qu'on saisisse à l'entrée de cette série de messages. On a lu au tout début que Dieu voulait donner des cœurs nouveaux. Je vais le relire. C'est dans Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je crois que le travail le plus important que Dieu fait, c'est un travail de profondeur. Si tu te demandes c'est quoi la chose la plus importante que Dieu veut faire, c'est une chose qui n'est pas visible de prime abord. Parce qu'il travaille d'abord les cœurs. Il travaille les cœurs. Puis les cœurs transformés, ça va avoir un effet sur le visible. Mais c'est un travail de profondeur, c'est un travail qui prend du temps. Et pour qu'il puisse le faire, il faut lui laisser nos cœurs. Souvent, on est disposé à laisser à Dieu nos mains, nos comptes en banque. On est disposé à laisser Dieu agir sur plein de choses, mais pas nos cœurs. On ne lui laisse pas nos cœurs. On ne lui laisse pas travailler nos cœurs. À l'église, j'entends beaucoup que les gens veulent laisser leurs mains à Dieu. Seigneur, utilise-moi. Mais est-ce qu'on est aussi rapide à dire, Seigneur, transforme-moi? Est-ce qu'on est d'accord de dire, si je veux que tu puisses m'utiliser, je veux te suivre là où tu me demandes d'aller? Est-ce qu'on est d'accord de dire, Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui se passe? Dans l'histoire qu'on a lue, très rapidement, je crois, puis encore une fois, ce n'est pas cette histoire seule, c'est l'ensemble d'Esdras et Néhémie, c'est la situation chronologique du livre, c'est la situation prophétique du livre, c'est ce qui s'en vient après, qui me donne cette grille de lecture, puis je ne suis pas le seul à lire ce livre de cette façon-là. Je crois que Zorobabel, qui est un excellent leader, a été un peu trop rapide à réagir. Je crois qu'il n'a pas su voir pleinement ce que Dieu était en train de faire. Et si vous voulez une preuve, pour ceux qui sont rapides, allez lire Néhémie 13. Parce que Zorobabel, il devait ramener le temple. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Puis dans Néhémie 13, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les gens n'ont pas compris l'importance du temple, la place du temple, ce qui devait se passer avec le temple. Sans doute qu'il a été un peu rapide dans son travail, Zorobabel. Si vous lisez, encore une fois, si vous lisez le temps que ça lui a pris de faire le temple, il a fait le temple plus rapidement que ce qui était normalement le temps qui était prévu. Il a été comme pressé de faire ça. Il a été pressé de répondre aux gens qui venaient, de leur dire « Non, ce n'est pas à vous, il a créé une division. » Alors que Dieu n'avait pas du tout l'intention de créer une division. Il aurait pu prendre le temps. Il aurait pu réagir différemment. Vous vous souvenez le titre du message, hein, « Au-delà des apparences ». C'est très bien ce qu'il a fait. Mais est-ce que c'est possible que la trajectoire de son cœur se soit un peu perdue, alors qu'il faisait des bonnes choses? Vous avez tous vu, j'en suis sûr, cette expérience. Si vous faites partir un avion d'un aéroport et puis que vous changez de quelques degrés sa trajectoire, il n'arrive pas du tout là où il était censé arriver. Pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est l'avion fait juste en volant. Ce n'est pas des mauvaises choses qu'il fait. Il a juste changé un tout petit peu la trajectoire. Et moi, ma peur, c'est alors qu'on est dans cette saison où on sort, où on veut le réveil, où on veut foncer, où on veut voir cette réforme, est-ce qu'on est suffisamment d'accord de se calmer puis dire, Seigneur, est-ce que mon cœur il bat au rythme du tien? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quels sont les indicateurs que je dois prendre en considération? Moi, je me dis, encore une fois, Zorobabel est un bon leader, mais je me dis, est-ce que Zorobabel n'aurait pas dû s'arrêter un instant voyant les vieux pleurer? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous étiez là à l'époque du premier temple. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire différemment? Pourquoi vous pleurez? J'ai envie d'être vraiment pratique, puis on va chanter tout de suite un chant. Mais je me demande, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce message? On a une intention ici, c'est que nos messages, tu puisses vraiment en faire quelque chose en repartant. Puis du coup, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et objectivement, je ne peux pas répondre pour chacun de vous. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pour chacun de vous ce que ça veut dire. Mais il y a des principes que je peux vous donner. Puis le premier de ces principes, c'est laisser Dieu transformer vos cœurs. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, voilà mon cœur. Voilà mon cœur. Voilà mon cœur dans mes projets, voilà mon cœur dans mes intentions. Voilà, j'ai l'impression que tu m'avais parlé, mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ici, on l'a dit plusieurs fois, on essaie de faire ce que Dieu nous demande de faire. Puis des fois, Dieu nous a dit des choses il y a longtemps. Puis d'un coup, c'est comme si les portes s'ouvrent. Et puis à chaque fois, je suis hésitant d'aller dans les choses parce que là, ok, il m'a dit ça il y a 12 ans, mais est-ce que ma trajectoire a changé entre-temps? Est-ce que mon cœur est toujours au même endroit? Sinon, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que tu peux me donner juste une confirmation encore? Est-ce que tu peux convaincre encore les autres? Parce que j'ai envie d'aller seulement à la vitesse de ton cœur. J'ai envie de battre avec ton cœur. Et ça, vous pouvez tous le faire. Checkez vos cœurs. Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui me motive au-delà des apparences? Au-delà des apparences. Je vous parle encore une fois comme pasteur, mais il y a des gens qui servent à l'église avec les mauvaises intentions. C'est bizarre, hein? Normalement, le pasteur, il dit, venez servir à l'église. Là. Puis moi, j'ai envie de te dire, check ton cœur avant de servir à l'église. Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui doivent servir à l'église. J'ai aucun problème avec ça. Mais si tu le fais avec les mauvaises intentions, tu peux faire les bonnes choses avec le cœur au mauvais endroit. Puis le résultat, il n'est pas bon. Alors check ton cœur. Check ton cœur. Pourquoi est-ce que tu te fiances? Magnifique, le mariage, beaucoup de gens veulent ça, puis c'est pour beaucoup de gens, mais est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que t'es au bon endroit pour le faire? Pourquoi tu changes de job? Peut-être c'est très bien, peut-être c'est très sage, mais toutes ces décisions un peu centrales, est-ce qu'on vérifie que notre cœur est avec Dieu? Est-ce qu'on vérifie que notre cœur est avec Dieu? Puis alors que je préparais ça, ça c'est mon devoir pour toi. S'il faut que je mette encore la casquette du prof, mon devoir, check ton cœur avec Dieu. Mais alors que je préparais ce message, il y a deux choses que j'ai l'impression que Dieu me disait en particulier pour différentes personnes ici. J'ai l'impression que il y a des déceptions et des frustrations qui ont changé ta trajectoire. Dans ton cœur, il y a des déceptions et des frustrations qui ont commencé à influencer tes motivations. Et je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je sais qu'il y avait des déceptions qui sont professionnelles, il y a des déceptions qui sont relationnelles et il y a des déceptions qui sont amoureuses. Puis du coup, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton cœur. Puis je crois que c'est une invitation au Seigneur de dire juste, prends le temps, on va regarder ces choses-là. On va les regarder ensemble. Amène-moi ces déceptions, amène-moi ces frustrations-là. Ne fais pas pour juste pour faire. Ne continue pas juste pour continuer. Amène-moi ces choses-là. Je crois que le Seigneur veut vraiment nous donner un cœur nouveau. Je crois que le Seigneur veut venir et faire du bien à notre cœur par rapport à certaines déceptions, par rapport à certaines frustrations. Je te laisse réfléchir, mais j'ai pas envie de... Si tout de suite tu as pensé à quelque chose, ça te concerne. Si tu n'as pas tout de suite pensé à quelque chose, pas besoin de faire non plus des heures et des heures de te demander, mais si c'est venu là tout de suite, quand j'ai dit déception, frustration, tu as pensé à une situation, tu as pensé à un événement, tu as pensé à une personne ou quoi, ça te concerne, c'est pour toi, puis on va prier ensemble. Mais la deuxième chose qu'il m'a montré aussi, c'est un peu plus en profondeur, c'est qu'il y a des gens, il y a des blessures littéralement. Et ces blessures, elles ont laissé de la place à de l'amertume dans vos cœurs. Ça a laissé de la place à de l'amertume, puis en fait, ça, c'est venu, puis votre trajectoire, elle est déjà changée là. Vous fonctionnez d'après des paradigmes qui ne sont plus tout à fait bien, tout à fait sains. Et je crois que ces blessures et cette amertume, il y avait relationnellement. J'ai parlé de la division, et j'ai l'impression qu'il y en a certains, il y a des divisions dans votre vie. Il y a des gens que vous avez juste abandonnés. J'ai été suffisamment longtemps dans les églises pour savoir que des fois la division elle est dans l'église. On a Robert et Arthur. Les deux sont depuis très longtemps dans l'église. Les deux aiment Dieu de tout leur cœur. Mais Robert et Arthur n'arrivent pas à se dire bonjour. Et puis ils le savent, mais c'est même un peu du savoir collectif. Laisse ici, c'est Arthur qui s'assoit. C'est mieux parce que son ennemi est là-bas. Puis on est dans la même église. Puis on chante les mêmes chants, puis on lève les mêmes mains, puis il y a des blessures qui sont là, qu'on ne veut pas y faire face. Puis je crois que le Seigneur, quand il me donnait ce message en particulier, il disait, il y a des gens, c'est le temps juste d'aller résoudre certaines situations. Alors ça m'est égal de savoir qui va faire le premier pas, faites le premier pas. Allez vers cette personne, dire, écoute, le temps qu'on restaure, Dieu c'est un Dieu de la restauration. Mais il y a des gens qui ont été blessés par l'Église aussi. Il y a des gens qui ont vécu des blessures face à l'Église, puis du coup, ta relation en général face à l'Église, elle est marquée par ces blessures-là. Puis le Seigneur, il dit, c'est le temps pour un cœur nouveau. Avant de foncer, avant de vivre le réveil, avant de changer le monde, j'ai envie de changer ton cœur. Puis l'Église, oui, au passage, l'Église blesse. L'Église a blessé, puis l'Église va encore blesser parce que l'Église elle est faite de plein de gens imparfaits. Mais moi, le premier de la liste. Mais c'est pas ok de rester blessé. Ça nous appartient à tous. Qu'est-ce qu'on va faire de cette blessure? Puis le dernier des choses, puis ça c'est... Je sais que c'est Dieu parce que je pouvais pas penser à ça de moi-même. Mais il y a des gens, vous êtes fermés au monde, littéralement au monde, à cause de blessures. Puis le verset le plus connu de la Bible, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Puis là, vous voyez, c'est typiquement le genre de dissonance, le genre de sentiment aigre-doux qui doit naître. C'est que vous aimez Dieu de tout votre cœur, puis que Dieu, lui, il aime le monde à tel point qu'il envoie Jésus-Christ pour le monde. Mais nous, on s'est fermé au monde. Bizarre comme récit, non? Pourtant, tellement souvent, c'est le cas. Puis vous avez sans doute des bonnes raisons. Mais si Dieu aime le monde, qui est-ce que moi je suis pour ne pas aimer le monde? Comment est-ce que c'est possible que je sois plus prompt, plus rapide à critiquer, à juger, à pointer du bois, à diminuer, à me moquer, sous prétexte que je connais Dieu? Un monde pour qui le cœur de Dieu bat, littéralement. Alors ça, c'est les choses que Dieu m'a données pour nous ce matin. Puis j'ai envie de prier avec vous, mais je vous l'ai dit aussi, je veux vous encourager à vous prier avec Dieu pour votre situation personnelle, votre réalité quotidienne. Si vous êtes senti concerné par soit les déceptions, frustrations, ou alors les blessures et l'amertume, j'ai envie de vous dire, on va prier maintenant ensemble, puis j'ai confiance dans le Saint-Esprit, il peut agir là, maintenant, tout de suite. Puis en même temps, c'est le genre de changement qui doit se mettre en place, qui doit demander une réponse de votre part. Alors moi, je veux vous encourager à aller en parler à quelqu'un, quelqu'un à qui vous faites confiance, quelqu'un qui chemine avec vous. Si vous avez personne, vous pouvez venir en parler. On a des équipiers de prière qui seront là à la fin. Vous pouvez venir en parler avec moi. Mais juste dire, ça m'a concerné, puis j'ai envie de mettre en place quelque chose, puis j'ai envie de cheminer avec ça, et puis qu'on puisse se tenir ensemble là-dedans. Mais si vous êtes senti concerné, maintenant je vous invite à mettre une main sur votre cœur. Ce qu'on veut, c'est le cœur nouveau que Dieu a pour nous. Et on veut prier ensemble. Seigneur, tu veux nous donner des cœurs nouveaux. Tu l'as dit par le prophète Ézéchiel, tu veux nous donner des cœurs nouveaux. Et nous, on ne peut pas, par nos propres forces, transformer nos cœurs, mais on peut nous abandonner entre tes mains, on peut abandonner nos cœurs, on peut faire descendre toutes les murailles qu'on a élevées, Seigneur. On peut rendre disponible notre cœur à ton Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, fais ce que toi seul tu peux faire dans nos cœurs. Viens et touche maintenant, Seigneur. Viens et réajuste maintenant. Je prie en particulier pour ceux qui ont leur cœur qui a été affecté par des déceptions, par des frustrations. Viens et donne un souffle nouveau, donne une vision nouvelle, rafraîchis, Seigneur. Viens et fais ton travail à toi. Puis je veux prier pour tous ceux qui ont leur cœur blessé, ou même leur cœur qui a laissé grandir des réalités d'amertume. Seigneur, c'est toi le grand consolateur. C'est toi celui qui nous restaure. Alors restaure nos cœurs. On veut des cœurs nouveaux. Et on a besoin de toi pour ça. Fais ton œuvre, Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.